Vous écoutez France Culture. France Culture, tout de suite, le bien commun, Antoine Garapon.
Bonjour. Vous connaissez probablement cette technique de management qui s'appelle l'entretien d'étonnement. Elle consiste à demander à un cadre qui vient d'intégrer une nouvelle structure de faire part de ce qui l'a surpris. On estime en effet que la fraîcheur de son regard porté sur soi et sur les autres peut améliorer un fonctionnement facilement rouillé par les habitudes. Et finalement, l'étonnement n'est-elle pas aussi d'ailleurs une valeur philosophique ? C'est cet entretien que je me propose de faire passer au juge Cotte. Il a été élu juge à la Cour pénale à la fin d'une carrière exclusivement nationale et il vient tout juste de revenir après 6 ans de fonction dans cette juridiction toute nouvelle et je voudrais qu'il nous fasse part de son expérience étonnante. Bruno Cotte, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Alors, est-ce que, en quelques mots, votre carrière, vous avez une carrière de magistrat, à la fois juge et procureur.
Alors, moi, j'ai eu une carrière extrêmement classique et qui n'avait pas du tout exploré la dimension internationale. Au ministère de la Justice, à 3 périodes différentes, à la tête du parquet de Paris, à la tête d'un parquet général et à la Cour de cassation, pour terminer comme président de la Chambre criminelle, jusqu'à ce que je sois élu à la Cour pénale internationale. Je dis bien élu parce que voilà un des facteurs d'étonnement dont vous parliez. Un juge français n'a pas l'habitude de faire campagne pour se faire élire. Et il n'est pas du tout évident pour un juge français d'aller dire aux représentants de 120 et quelques États, qui sont les États électeurs, qu'il est un type épatant. Or, il faut aller dire qu'on est un type épatant.
C'est une élection un peu politique, au moins diplomatique.
Elle est diplomatique, sans doute un peu politique, depuis que la Cour existe, c'est-à-dire depuis maintenant, depuis qu'elle est en activité, c'est depuis à peu près 13 ans, je crois qu'elle se veut de plus en plus professionnelle, cette élection, du moins en théorie, car la Cour s'est rendue compte qu'elle avait besoin de juges qui soient capables de juger.
Oui, mais précisément, la difficulté de cette Cour, c'est que si mes souvenirs sont exacts, il y a 3 collèges, un collège de professeurs, un collège de diplomates et un collège de juges jugeants, de juges professionnels.
En réalité, il y a 2 collèges. Il y a un collège, il y a 18 juges à la Cour.
C'est ça.
Il y en a 10 qui sont sur une liste A, peu importe son nom, et qui sont des spécialistes de droit pénal et de procédure pénale, ayant en théorie l'expérience du procès pénal dans leur pays. Et puis la liste B comporte 8 membres qui sont plutôt des spécialistes du droit humanitaire et du droit international. Et on trouve au sein de cette liste des diplomates, notamment, et des professeurs de droit, des universitaires.
Mais alors, un professeur de droit peut bien connaître le droit international et humanitaire. Est-ce que ça en fait pour autant un juge ?
Alors voilà, il faut que l'universitaire sache quitter la toge de l'université pour vraiment revêtir celle du juge. Il y en a qui y parviennent très vite et très bien. Il y en a d'autres, me semble-t-il, qui ont un très long chemin à faire pour quitter la peau de l'universitaire, quitter le regard que leur communauté universitaire est susceptible de porter sur eux et sur les décisions collégiales qu'ils rendent. C'est tout le problème des opinions dissidentes qui ont la possibilité de s'exprimer au sein de la Cour et pas uniquement lorsque est rendue la décision finale sur le fond.
C'est ça. Opinion dissidente pour nos auditeurs, c'est la capacité de dire qu'on n'est pas d'accord avec la majorité des juges.
Voilà, c'est soit la capacité de dire que l'on n'est pas du tout d'accord, soit la capacité intéressante de dire que l'on est d'accord, mais que l'on aurait peut-être suivi un raisonnement différent, exactement, que l'argumentation serait différente.
Mais Bruno Cotte, est-ce que dans l'expérience de magistrat, il n'y a pas une confrontation, il n'y a pas celle de l'expérience d'une confrontation au crime, c'est-à-dire à quelque chose de terrible, quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Ça, c'est quelque chose que les jeunes magistrats apprennent très tôt, comme les jeunes médecins se familiarisent avec la mort et la maladie.
Oui, mais alors, c'est peut-être aussi un des avantages de la Cour, c'est de mixer la pratique professionnelle et l'expérience de ceux qui ont été juges dans leur pays et qui ont été confrontés, comme vous le dites, à la dureté des phénomènes criminels. Là, il s'agit de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide. Telle est la compétence de la Cour. Cette possibilité de mixer donc cette connaissance avec celle d'autres juges qui ne connaissent pas, qui sont, j'allais dire, tout neufs, et qui regardent cela avec un œil neuf, et qui peuvent avoir des réactions moins accoutumées, si je puis dire, que celles d'un juge professionnel. Donc, le mélange des deux peut constituer une très bonne approche, à la condition, et là il faudra vraisemblablement que nous insistions là-dessus, à la condition que les juges arrivent à parfaitement et complètement s'imprégner des faits qu'ils ont à juger. Et se disent bien qu'ils ne font pas que du droit, mais que pour faire du droit correct et équitable, il faut impérativement d'abord bien connaître les faits.
Bien connaître les faits, ça veut dire se transporter en Itourie en ce qui vous concerne. Vous allez nous raconter le procès Katanga, celui que vous avez mené, mais ça veut dire rentrer dans un contexte totalement différent, dans une culture totalement différente, avec des guerres extraordinairement complexes et cruelles d'ailleurs.
Alors effectivement, il faut se dire que l'on est à La Haye, à des milliers de kilomètres des faits que l'on est amené à juger, et que l'on ne peut pas, mais que c'est impossible de rendre une justice désincarnée. Donc, à partir des éléments figurant dans le dossier qui vous est soumis, et quand je dis dossier, c'est un grand mot, car la procédure suivie devant la Cour comporte à la fois des éléments de civil law, de droit romano-germanique et de droit anglo-saxon, de common law. Et du coup, il y a relativement peu de dossiers, ce qui fait que le dossier va se construire au fur et à mesure des débats à l'audience. Mais il faut arriver à s'imprégner totalement des faits de l'affaire. J'y reviens et j'insiste, parce que sans cela, on risque d'avoir tout faux et de juger totalement à côté.
Mais comment faire pour s'imprégner ? Il faut avoir des regards d'historien, d'anthropologue, de linguiste ?
Alors, c'est toute la difficulté. À l'heure actuelle, à la Cour, le bureau du procureur qui fait les enquêtes dispose d'analystes. Les chambres de la Cour, qu'il s'agisse de la chambre préliminaire, qui, dans une certaine mesure, de manière très très relative, pourrait s'apparenter à une chambre de l'instruction en France, qu'il s'agisse des chambres de jugement, moi je présidais une chambre de jugement, ou qu'il s'agisse de la chambre d'appel, ne dispose pas d'analystes. On compte sur la capacité des juges à s'imprégner tout seuls des faits de la cause. Et je ne m'en suis pas senti capable, soyons clairs, à l'initiative de mon assistante, qui était une jeune juriste ayant travaillé au tribunal pour l'ex-Yougoslavie et au tribunal pénal pour le Rwanda, je me suis adjoint de manière très pragmatique les services de spécialistes des sciences sociales qui m'ont permis et qui ont permis à la Chambre de disposer de connaissances à la fois politiques, historiques, vous le disiez, géographiques, démographiques, sociologiques, anthropologiques sur cette région de l'est de la République démocratique du Congo, l'Itourie, qui est à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, où se sont déroulés, où s'étaient déroulés les faits que nous devions juger. Et l'approche qu'ils nous ont permis d'avoir, à nous juristes qui ne sommes pas formés ou peu formés aux sciences sociales, nous a permis et m'a permis à moi, qui présidais les audiences, de poser des questions que sans ce regard de spécialiste des sciences sociales, je pense je n'aurais jamais été conduit à poser. Je prends un exemple tout bête. Lorsque l'on a à déterminer une chaîne de responsabilité, qui obéit à qui ? Il est tout de même important de savoir si l'un de vos accusés obéira d'abord au supérieur hiérarchique dans la chaîne militaire ou administrative qui est au-dessus de lui, ou au féticheur local, celui qui, avant les combats, va distribuer les fétiches. Nous avons vu cela tout récemment. Il y a eu des émissions de télévision l'an dernier lors du conflit en Centrafrique, où l'on voyait, lors d'un journal télévisé, un ressortissant centrafricain montrant avec énormément de conviction les fétiches qu'il portait sur lui. Donc, manquer en quelque sorte cette approche d'un dossier, c'est courir le risque, j'y reviens, d'avoir tout faux.
Mais surtout qu'on est dans un contexte en Itourie, parce que là aussi c'est tout à fait nouveau, les milices de l'Itourie, ce n'est pas l'armée allemande, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette organisation extrêmement hiérarchisée qui a été la référence du droit humanitaire, à vrai dire, qui était le droit de Nuremberg, qui était le droit, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, où on avait des armées qui étaient responsables d'atrocités. Là, on est dans un contexte tout à fait différent.
Alors, c'est l'une des difficultés majeures que rencontre actuellement la Cour pénale internationale. Vous parliez de Nuremberg, de l'administration nazie, de l'organisation nazie, des fichiers nazis, qui ont vraisemblablement permis au tribunal de Nuremberg d'avancer relativement rapidement, car il disposait d'une foule d'éléments de preuve. Le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a à coup sûr rencontré lui aussi des difficultés, mais le champ qu'il devait explorer sur le plan juridique était un champ limité, aussi complexe qu'il soit, à l'ex-Yougoslavie. La Cour pénale internationale, qui pour l'instant est sans doute très africaine et aux yeux de certains trop africaine, doit chaque fois qu'elle prend connaissance d'un dossier concernant un nouveau pays africain, s'immerger totalement dans une nouvelle structure, dans une nouvelle configuration. L'Ituri, est de la République démocratique du Congo, n'a rien à voir avec le Kenya, n'a rien à voir avec le Mali, la Centrafrique ou l'Ouganda. Donc, c'est une démarche qu'il doit à chaque fois être réalisée et qui rend les enquêtes du procureur extrêmement difficiles.
Alors, c'est d'autant plus délicat que vous n'étiez pas nécessairement à l'aise dans ce système de preuves. Vous venez d'un pays qui est la patrie du code de Napoléon, qui est un pays de codification, qui est un pays inquisitorial, de tradition inquisitoriale. Vous débarquez, passez-moi l'expression, dans une procédure tout à fait nouvelle, qui est la procédure de common law, où le juge est en retrait. Donc, il est difficile d'avoir des preuves, il est difficile d'avoir les bonnes preuves. Et est-ce que ce maniement des preuves ne vous a pas dérouté, Bruno Cotte ?
Alors, pour un juge qui arrive à la Cour pénale internationale, la modestie est la règle. Parce que l'on découvre tout, et comme vous le dites, on découvre là aussi des preuves totalement différentes. Je parlais des enquêtes du procureur, cela rejoint votre propos d'il y a un instant. Le procureur doit la plupart du temps enquêter dans des pays où l'insécurité est encore omniprésente, ce qui ne rend pas les investigations simples. Dans des pays, pour l'instant des pays africains, où les preuves écrites ne sont pas nombreuses. Il y a bien sûr des rapports des Nations Unies, des rapports d'organisations non gouvernementales, mais ce qui, effectivement, pour un juriste français, représente un point d'appui important, la preuve écrite, la preuve documentaire, les procès-verbaux de réunions, les lettres échangées, il y en a peu. Ce qui revient à faire une confiance peut-être trop importante aux témoins. Et c'est là qu'on rejoint la procédure anglo-saxonne. Le procureur cite à l'audience ses témoins qui seront interrogés, contre-interrogés, et les défenses citent à leur tour leurs propres témoins.
C'est très intéressant du point de vue de l'anthropologie du procès, parce que finalement, pour comprendre un témoin, il faut comprendre un peu de sa culture. Pour comprendre tout ce qui ne passe pas directement par le langage, on va revenir sur la traduction, mais tout ce qui est le langage corporel, les expressions, la gêne, la honte, l'indignation, tout cela demande à être décodé, tout cela demande à avoir un minimum de culture commune. Est-ce que ce n'est pas une épreuve redoutable pour la Cour pénale internationale ?
Alors, c'est incontestablement difficile, mais c'est là, je pense, que l'expérience antérieure de ceux qui ont eu la possibilité de juger dans leur pays avant est primordiale. Je ne prétends pas tout savoir, mais je me suis senti relativement vite à l'aise parce que le déroulement des audiences était un déroulement lent. Le déroulement était lent parce qu'il était dicté par les nécessités de l'interprétation. Nos témoins arrivaient de l'Ituri, débarquaient, c'est le sens propre du terme à la haie, s'exprimaient en swahili. Le swahili était traduit en français et le français en anglais, car l'une des équipes de défense de l'un des deux accusés était anglaise. Donc tout cela imprimait au débat beaucoup de lenteur. Et de cette lenteur, j'ai essayé, à titre personnel, comme président, de tirer un avantage. Parce que cela donnait aux témoins venus de très loin, arrivant dans une salle d'audience totalement aseptisée, moderne, avec des écrans partout, sachant qu'il était filmé, etc. Cela donnait aux témoins la possibilité de prendre son temps, de reprendre souffle. Et vous avez tout à fait raison, la possibilité également, par des écrans de télévision, de faire apparaître en gros plan le visage du témoin, permet au président d'audience, s'il y est attentif, de voir lorsque le témoin se décompose un peu. Et je vous assure qu'il y a notamment des femmes victimes de viol à qui l'on demandait 10 années après les faits, de venir réexpliquer ce qui s'était passé, les conditions dans lesquelles un de leurs enfants ou un de leurs proches avait pu être tué à coups de machette ou sous les balles d'une kalachnikov. Tout cela est extrêmement émouvant, est extrêmement impressionnant et je ne compte pas les occasions qui m'ont conduit à dire, bah, écoutez, on va s'arrêter un instant. Madame, vous avez, je vois que vous pleurez. Prenez le temps de pleurer. C'est important de pleurer. Et puis voilà, la chambre prenait son temps, laissait aux témoins le temps de se ressaisir. Si l'on rend une justice stakhanoviste dans ce contexte-là, je pense là encore que l'on a tout faux. Mais et que l'on passe à côté de ce que l'on doit faire.
Il y a une marge entre une justice stakhanoviste et le temps qui a été critiqué, d'ailleurs, trop long, qui est pour l'instant consacré au procès. Est-ce que vous ne pensez pas que les procès devant la Cour pénale internationale n'interviennent pas dans un temps compréhensible pour les publics auxquels ils s'adressent, et notamment les publics africains ?
Bon. C'est l'une des critiques majeures dont fait actuellement l'objet la Cour. C'est la lenteur des procédures. Il faut simplement réaliser que, en ce qui me concerne, je viens de quitter La Haye, de rendre mon deuxième jugement, et je n'étais là que depuis 6 ans. C'est la deuxième affaire. Nous en sommes vraiment au tout début. Mais tout est un peu facteur de lenteur. Les preuves, je l'ai dit, sont difficiles à réunir. Il faut arriver, pour le procureur et les défenses, à trouver des témoins qui soient d'accord pour venir déposer. Il faut ensuite que ces témoins puissent déposer dans de bonnes conditions. Il faut intégrer la lenteur de l'audience. Il faut intégrer des considérations aussi simples que celles d'un témoin qui arrive de la République démocratique du Congo en plein mois de janvier ou de février à La Haye, qui a une différence de température de 30 à 35 degrés, qui tombe malade. Il va falloir interrompre l'audience pendant 2 ou 3 jours pour reprendre ensuite avec ce même témoin, car il n'y en a pas un deuxième derrière. Quand on fait faire 7000 km à un témoin, on attend que l'un soit rentré pour faire venir l'autre. Tout cela est terriblement coûteux. Pour ces témoins, l'appréhension de l'audience est réelle. Et à part un que j'ai en tête, qui souhaitait, il le disait lui-même, s'exprimer à la face de l'humanité, la plupart s'expriment lentement. Tout est très lent. Il faut venir assister à des audiences de la Cour pour voir ce rythme-là. Maintenant, tout est améliorable et il faudra tout améliorer.
Parce que si on espère, si on souhaite que la Cour devienne la véritable Cour qui juge le plus grand nombre possible de responsables de crimes contre l'humanité, elle devra être plus efficace. Parce qu'on critique sa lenteur, on critique son coût aussi, Bruno Cotte.
Alors, on critique sa lenteur. Je reviens quand même un instant sur la lenteur. Quand l'on prend à l'heure actuelle les différentes affaires soumises aux chambres de jugement, on se rend compte heureusement que la phase dite de mise en état du dossier, une fois que les charges ont été confirmées, c'est-à-dire que la chambre préliminaire a dit « oui, on peut aller en jugement », cette phase ne cesse de se réduire. Dans la première affaire, elle a duré près de 2 ans. Dans l'affaire que j'ai présidée, elle a duré 10 à 11 mois. Et je crois qu'il y a un savoir-faire qui est en train de s'acquérir. Donc, lenteur, c'est vrai, possibilité pour le président de la chambre de jouer sur les délais. Je prends un exemple. Le procureur souhaitait présenter, bon, je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais mettons 30 témoins. Et il demandait 240 heures d'interrogatoire principal. Nous avons examiné, donc, les 3 juges de la Chambre avec leurs assistants, la liste de ces témoins et les questions que, globalement, il envisageait de leur poser. Et nous lui avons dit, écoutez, donc, sur ces 30 témoins, il y en a qui sont redondants. Nous pensons que vous pouvez vous limiter à 24 témoins. Et en ce qui concerne le nombre d'heures, 240, non. Vous devez arriver à tout faire tenir en 120 heures. Hurlements, discussions, négociations, échanges, en définitive, c'est ce qui s'est fait. Et le procureur est arrivé à présenter sa cause dans les délais que la présidence de la Chambre lui avait fixés et de manière, je pense, tout à fait raisonnable. Et la pratique a été la même vis-à-vis des équipes de défense. Alors, les coûts, oui, c'est vrai que c'est une justice coûteuse. Une nouvelle fois, les enquêtes se déroulent fort loin. Par ailleurs, il faut faire venir les témoins. C'est un long trajet. De manière, là encore, peut-être un peu triviale, certains de ces témoins souhaitent déposer dans leur costume local, notamment les femmes. Pas systématiquement. D'autres témoins souhaitent être en mesure de déposer, si je puis dire, vêtus à l'occidental. Il faut vêtir ces témoins. Il faut les loger à La Haye. Le témoignage de certains témoins peut durer 3 semaines. C'est donc une période de plus d'un mois pendant laquelle la Cour va prendre en charge les frais d'hébergement de ces témoins. Comme c'est une justice qui est rendue de très loin, il est impératif qu'il puisse y avoir une rétrocession des audiences. Tout est filmé, tout est enregistré. Pour chaque audience, il y a environ 40 à 45 personnes qui gravitent autour de la salle d'audience, techniciens divers et variés. Et dans la plupart des pays qui font l'objet d'affaires soumises à la Cour a souhaité ouvrir un bureau qui puisse accueillir, et là encore accueillir les personnes intéressées par les débats, et rétrocéder ce qui se passe à la Haye.
Alors la langue, les questions des langues, après on viendra, parce que vous étiez un juge francophone, minoritaire, dans une majorité de juges anglophones, alors que la Cour est bilingue en principe. Quelle est votre expérience de ce bilinguisme ?
Alors, il y a deux langues de travail à la Cour, qui sont l'anglais et le français. Et un certain nombre de documents, si cela est nécessaire, peuvent être également traduits en arabe. C'est important, compte tenu d'affaires comme celle de la Libye, du Soudan, en russe, et je ne sais plus quelle est l'autre langue. Peu importe. En réalité, l'anglais est omniprésent. Il faut en avoir conscience. J'ai eu la chance de présider une chambre qui connaissait d'une affaire, donc, dont les accusés, quoique parlant le swahili ou le lingala, comprenaient le français, ce qui m'a permis de présider en langue française et d'avoir, pas toujours, mais souvent, un retour en langue française. En revanche, les témoins, je l'ai dit, parlaient en swahili. Traduit en français et traduit en anglais.
Il n'y a pas une déperdition de sens.
Voilà. Et pour le juge, c'est une appréhension phénoménale. Car à chaque fois, je me disais, mais mon Dieu, que reste-t-il de la question que je viens de poser au témoin, maintenant qu'elle a été traduite? Est-ce que l'interprète a été fidèle? Est-ce que le vocabulaire du swahili permet d'apporter les nuances que j'ai souhaité apporter? Et le plus souvent, je m'efforçais de trouver des phrases courtes, très simples. Mais il y a là une très réelle appréhension. Et le fait que la Cour soit de plus en plus amenée à travailler, appelée à travailler en langue anglaise, me pose à moi problème. L'affaire concernant le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Gbagbo, vient d'être renvoyée devant une formation de jugement. M. Gbagbo parle bien sûr français. Bien sûr. Les témoins qui viendront parleront pour les 99% français. Et ils seront face à des juges qui parleront anglais, qui ne pourront pas avoir ce contact direct qui me paraît mais essentiel quand l'on est appelé à juger quelqu'un. C'est une des difficultés et cela montre à quel point il faut que la francophonie soit présente à la Cour.
Oui, d'autant que vous partiez, combien sont les juges aujourd'hui francophones ?
Eh bien, en même temps que moi est partie une juge malienne, francophone, qui siégeait avec moi. Et sauf erreur de ma part, il n'y a plus de juge francophone. Il y a un juge, enfin, il y a une juge, enfin, j'en connais. Sur les 18 juges, il y en a 3 ou 4 qui parlent correctement le français, mais c'est à peu près tout.
Qu'est-ce que vous répondez à la critique qui monte et de plus en plus, surtout après l'affaire du Kenya, que cette Cour pénale internationale ne s'intéresse que aux crimes commis en Afrique et qu'elle ne va pas dans des crimes pourtant très importants commis, on pense à la Colombie, on pense à la Russie ou à d'autres théâtres d'opérations?
Alors, le procureur diligente des enquêtes dans un certain nombre de pays autres que le continent africain, mais il est vrai, aucune de ces enquêtes n'a pour l'instant donné lieu à une saisine des chambres de la Cour, ou en tout cas des chambres de jugement. Les affaires dont connaît la Cour sont pour l'instant essentiellement africaines. Ce qu'il faut simplement bien réaliser, c'est que 2 ont été dénoncées à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le Soudan et la Libye, et que les affaires de la République démocratique du Congo, les affaires de la Centrafrique, les affaires de l'Ouganda, les affaires du Mali ont été portées devant la Cour par ces États. L'affaire du Kenya, qui est à l'origine d'un mouvement un peu de rébellion de la part des États africains, est la première qui a été portée devant la Cour à la suite d'une enquête effectuée d'initiative par le procureur. Et elle est sur ce plan-là très significative, car c'est elle qui a été le déclencheur, en quelque sorte, d'un mouvement très vif l'an dernier des États africains qui ont, de manière, je m'exprime de manière un peu familière, laissé entendre que trop c'était trop et que maintenant il fallait aller voir un peu ailleurs que sur le continent africain. Et cela tient au fait que les 2 accusés de cette affaire du Kenya, le temps va plus vite, le temps historique et politique va plus vite que le temps judiciaire. Entre le moment où le procureur avait achevé son enquête et le moment où l'affaire est venue devant la Cour, étaient devenus respectivement président et vice-président de leur pays. Ce qui a été extrêmement mal vécu par les 2 accusés eux-mêmes et, de manière peut-être plus surprenante, très mal vécu par un certain nombre d'États africains qui n'ont pas voulu simplement réaliser que lorsque l'on était présumé coupable d'avoir commis des crimes contre l'humanité à un moment X, ce n'est pas parce que l'on était devenu président ou vice-président de son pays que l'on était ipso facto immunisé contre les poursuites.
Quel regard vous portez sur la France et sur sa position dans la mondialisation, et notamment la mondialisation judiciaire ou juridique ?
La France, en 1998, et même avant, était très présente lors des débats fondateurs de la Cour. Lors de la conférence de Rome de 1998, au cours de laquelle a été élaboré le statut qui a donné lieu à la signature du traité de Rome, la France était présente, peut-être un peu frileuse sur certains points. À l'heure actuelle, pour être très franc, le sentiment que j'ai est que le juge français qui siège à La Haye, à la Cour pénale internationale, est très seul. Le ministère des Affaires étrangères est présent, suit l'activité de la Cour, est présent et efficace lors des périodes au cours desquelles il convient de faire élire des juges, mettant en œuvre toutes les possibilités dont il dispose.
Efficace, mais on a quand même raté la dernière élection.
Parce que je pense que nous avons en termes d'élection un savoir-faire infiniment plus réduit que les anglo-saxons, qui savent parfaitement bien gérer ce type de procédure. Je pense que le ministère de la Justice n'est pas assez présent. Je le dis avec d'autant plus de simplicité que c'est un ministère au sein duquel j'ai travaillé, donc je l'ai dit à 3 reprises dans des années maintenant lointaines, et qu'il devrait être beaucoup plus impliqué. Je pense également que, à quelques exceptions près, l'université française n'est pas suffisamment présente non plus. Il y a, au moment où des décisions sont rendues, une réactivité très grande de tous les juristes qui s'expriment en langue anglaise. Qu'ils soient anglais, qu'ils soient australiens, néo-zélandais, peu importe, qu'ils soient néerlandais ou qu'ils soient allemands. La langue anglaise est actuellement porteuse de l'essentiel des commentaires des décisions de justice rendues par la Cour. Ce qui, paradoxalement, a conduit les décisions rendues par la Chambre que je présidais à être souvent commentées avec beaucoup de retard, même si, dans certains cas, la décision présentait un intérêt à la fois théorique, universitaire, juridique, judiciaire, réel. Donc j'aimerais, ça c'est vraiment l'un des messages maintenant que je viens de quitter la Cour, que je me permets de lancer, j'aimerais que mon pays soit beaucoup plus présent vis-à-vis de cette Cour, et non pas uniquement de manière un peu incantatoire, car les ministres des Affaires étrangères qui se succèdent évoquent la Cour, évoquent d'éventuelles saisines de la Cour, qu'il s'agisse de la Libye, ça a été le cas, qu'il s'agisse de la Syrie. Mais le tout n'est pas d'évoquer l'existence de la Cour et une éventuelle saisine, même si la France participe lourdement au budget de la Cour, même si elle participe, je crois, de manière très active aux actions de coopération pénale internationale pour faciliter peut-être l'exécution de mandats d'arrêt ou des arrestations, je pense qu'elle pourrait être encore beaucoup plus présente pour faire jouer l'influence française. Une nouvelle fois, ça n'est pas une compétition, mais l'influence française ne peut pas provenir que du seul juge, car il est très seul.
C'est ça. Et alors, maintenant, cette Cour, elle a atteint l'âge de maturité, l'âge de raison, plus même. Un souhait, Bruno Cotte, pour l'évolution de cette Cour. Maintenant que vous avez dressé ce bilan, vous l'avez dressé avec nous. Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez à la Cour ?
Bon, alors, je souhaite d'abord que les États partis qui élisent les juges et qui sont obligés de tenir compte de considérations continentales. Il faut qu'il y ait des représentants de chacun des continents visent plus qu'ils ne le font à privilégier le professionnalisme de ceux qu'ils vont élire. Car cette Cour a besoin, pour aller plus vite et pour mieux juger, de juges très professionnels, de juges qui s'engagent énormément. Et quand je dis s'engager, ça n'est pas s'engager petitement, c'est un engagement total, qui travaille beaucoup, qui s'implique et qui savent travailler en équipe. Et quand je dis travailler en équipe, ce n'est pas uniquement déléguer à des assistants de la génération au-dessous, souvent extrêmement brillants, c'est travailler avec eux. C'est mélanger les générations, mélanger les expériences pour qu'elle avance plus vite. Moi, je suis confiant. La justice pénale, la justice internationale ne se fait pas en 15 secondes. Cette Cour est très jeune, elle s'améliorera, elle peut s'améliorer. Je suis confiant. Je pense qu'il faut être patient, accepter d'être patient, qu'on peut être plein d'espérance. Et contrairement à ce que certains disent ou écrivent, la Cour, ça n'est pas une justice de vainqueur. Je prends simplement comme exemple l'affaire dont j'ai été saisi. Deux accusés, un acquittement, une condamnation. On sait faire la part des choses.
Bien, Bruno Cotte, merci. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Alex Dang. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page du Bien commun. Et pendant 1000 jours, ils peuvent même la télécharger pendant un an.